Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Didier de Buisseret. Bonjour Didier.
Bonjour Merlin, Ludovic Merlin, pardon, j'inverse les prénoms. Ludovic.
C'est pas grave, t'inquiète. Alors Didier, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui nous regardent, qui es-tu et quelle est ton activité aujourd'hui?
Donc, je me prénomme Didier, j'ai 50, quasiment 52 ans. J'habite Bruxelles, marié, père de trois enfants. Et donc, mon activité aujourd'hui est thérapeute psychocorporel. Donc, derrière ce nom un peu flou et complexe, en gros, j'accompagne des gens vers un mieux-être, principalement à travers les outils que sont le tantra, le massage tantrique et la respiration consciente. Donc, soit en séance individuelle, soit en atelier collectif. Et par ailleurs, je rédige des articles sur un blog qui s'appelle présenceasoi.be et qui, de fil en aiguille, ont conduit à la parution d'un livre dont on parlera, je crois, un peu plus tard. Et donc, je me retrouve et très surpris de l'être auteur aussi. Voilà.
justement, c'est le sujet un petit peu de l'interview. Alors, parce que moi, j'ai lu ton livre, je vous le présente, hein, mais je le mettrai après en référence, Des hommes en chemin vers un masculin conscient. Donc moi, j'ai lu ton livre, Didier, en début d'année. Et j'ai envie justement qu'on puisse un petit peu en parler de toutes les notions qu'il y a dedans, parce qu'il y a quand même des choses qui m'interpellent, moi, enfin qui sont venues résonner.
Chouette.
Oui, alors déjà, tu disais que c'était parce que tu écrivais beaucoup d'articles sur ton blog, et après, co comment c'est venu? C'est une sollicitation extérieure qui est
Oui.
venue te dire, bon, tu pourras en faire un livre, ou c'est toi qui as eu... L'intention, l'idée.
Non, c'est un éditeur, donc Florent Massot, qui ch cherchait un auteur pour écrire sur le sujet du masculin. Parce que suite à une recherche personnelle, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose sur le sujet. Autant sur le féminin, il y a tout ce qu'on veut. Sur le masculin, il n'y a pas tant que ça. Et donc, étant frustré dans sa recherche personnelle, il s'est dit, ben, on peut faire une pierre deux coups. À la fois, je trouve mes réponses pour moi. Et à la fois, il y a un créneau éditorial à faire. Et donc, il a fait des recherches sur Google un peu au hasard pour trouver des auteurs. Et il faut croire que mon blog n'est pas si mal référencé parce que sur une soixantaine d'articles, j'en ai à tout casser deux qui évoquent la question du masculin. Donc, ce n'est pas un sujet qui, à la base, était celui qui me questionnait ou me fascinait le plus. Mais bon, il est tombé sur moi. L'article qu'il a lu lui a bien plu. Donc, comme c'est quelqu'un qui fonctionne un peu à l'intuition, il s'est dit, OK, ben, je contacte. Donc, j'ai reçu un email. Au début, je me demandais c'est qui ce gars, qu'est-ce qu'il me veut. Et puis, j'ai fait un peu une recherche et j'ai réalisé que c'était un vrai éditeur qui avait édité d'excellents bouquins et des auteurs tout à fait valables. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et donc, c'était un peu un défi parce que je n'avais jamais dépassé un article de quelques pages. Je n'avais jamais fait d'écrit de longue durée. Donc, c'est quand même tout à fait une autre formule. C'est comme si on passait du 100 mètres au marathon, du jour au lendemain. Mais donc, c'était un beau défi que j'ai eu envie de relever. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que ce livre était très intéressant pour moi aussi parce que c'est une question. En fait, généralement, quand j'écris sur un sujet parce que je ne le maîtrise pas, parce qu'il me questionne, parce que j'ai envie de l'approfondir. Donc, c'est d'abord à titre purement personnel parce que j'ai envie d'aller plus loin dans la question. Et donc, du coup, je me suis dit, là, c'est un sujet autour duquel j'ai un peu tourné, mais que je n'ai pas beaucoup abordé. Et c'était l'occasion d'aller plus en profondeur. Et donc, en fait, j'ai appris énormément en préparant le livre et en le rédigeant. Donc, il y a des tas de choses pour lesquelles je démarrais dans le brouillard. Donc, je démarre un chapitre, j'ai 5% du contenu, je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Et puis, les choses se déroulaient et de fil en aiguille, on arrive à quelque chose.
Il est quand même, enfin, Moi qui en plus justement qui l'ai revisité il n'y a pas longtemps pour préparer l'interview, en fait c'est pas juste une suite d'articles les uns derrière les autres, c'est quand même hyper bien construit dans la structure, dans comment tu amènes le masculin, les peurs du masculin avec la femme, avec le féminin, enfin c'est quand même hyper structuré quoi.
Mais non, en fait, il y a le matériau de deux, trois articles dans lequel j'ai en partie puisé, et tout le reste, c'est du nouveau. Et par ailleurs, même dans les articles dans lesquels j'ai puisé, dont certains avaient déjà quelques années, je me suis surpris à ne plus être complètement d'accord avec moi-même, ou avoir pas mal évolué dans ma pensée qui s'est affinée ou autre. Et donc, j'ai pas pu faire de copier-coller, donc j'ai dû vraiment tout retravailler parce que tel que ça avait été écrit à l'époque ne me convenait plus. Le style avait aussi un peu évolué. Et également, pour un livre, j'ai voulu aussi être beaucoup plus solide sur un plan scientifique et au niveau des sources. Parce que un des articles que j'avais écrit, où j'avais été un petit peu moins pointu sur les justificatifs de ce que j'avançais, j'avais eu quelques personnes qui, sur les réseaux sociaux, m'avaient interpellé un peu violemment en disant c'est quoi ces chiffres, d'où ça sort, c'est des conneries, etc. Donc je me suis dit que pour un livre, quelque chose qui est destiné à rester, je voulais être beaucoup plus solide, avoir des bases scientifiques beaucoup plus claires. Et donc tout ce que j'affirme devait être démontré avec une note en bas de page, en renvoyant une étude scientifique, quelque chose de solide. Et tout ce qui était de la croyance personnelle, ben je l'annonce de manière claire, c'est ce que je crois moi, mais je ne vous le démontre pas. Ou en tout cas, beaucoup de gens pensent que, mais ce n'est pas un fait avéré. Donc j'essaie de bien distinguer les choses de façon à n'affirmer que des choses qui sont vraies et qui sont démontrables.
Alors, moi j'ai vu que sur le tu parles au tout début aussi du déséquilibre des polarités, que ça soit à l'intérieur de chacun ou aussi relationnellement ou dans notre société enfin, c'est quelque chose que tu constates souvent en accompagnement, ça, j'imagine.
Oui. Donc c'est vrai que l'équilibre des polarités yin et yang, c'est un peu le fil rouge, le fil conducteur de tout le livre. C'est vraiment la grille de lecture. C'est voir différentes façons d'être ou de se comporter seul, en couple, en société, et de voir que cette grille de lecture yin et yang vient apporter un éclairage que je trouve assez juste, assez complet de la façon dont nous sommes. Et effectivement, dans les ateliers en tantra particulièrement, cette question de l'équilibre des polarités, de voir comment on peut être aussi à l'aise dans l'une ou dans l'autre, de pouvoir déployer tel aspect de notre être, telle facette qui est plus ou moins éveillée, plus ou moins assumée, plus ou moins reconnue, suivant les gens. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est aussi d'aller un peu lutter contre le conditionnement sociétal premier, qui est que les hommes sont valorisés dans le yang et les femmes le sont dans le yin, et l'inverse par contre est plutôt, si pas réprimé, en tout cas très peu encouragé. Et donc c'est de pouvoir, enfin, pour moi le tantra c'est en partie tout un chemin de déconditionnement, de questionnement de toutes nos structures, de tous ces conditionnements qu'on croit faisant partie de nous, mais qui en fait nous ont été inculqués par la société, par la famille, par la religion, par plein de choses, et de faire un peu un travail d'inventaire de tout ça, et de voir qu'est-ce qui là-dedans m'appartient, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce que j'ai envie de garder, et qu'est-ce que j'ai envie de laisser aux générations précédentes, parce que moi, ça ne m'appartient pas et ça ne me parle pas.
C'est assez intéressant parce que moi je le vois aussi en accompagnement d'autres hommes que enfin, souvent il y a une polarité qui est vraiment définie et c'est difficile d'arriver dans l'autre. Et souvent c'est ou des hommes très sensibles mais le yang n'arrive pas à s'affirmer ou c'est des hommes très yang et d'un coup la vulnérabilité est plongée à l'intérieur d'eux, c'est pas si évident quoi.
Oui, souvent on a hyper valorisé une polarité et diabolisé l'autre, ou intégré que l'autre n'était pas faite pour mon sexe, pour mon genre, ou que je ne serais pas un vrai homme si je me comportais comme ceci ou si j'avais telle manière d'être. Et puis, on a depuis quelques années l'effet inverse, des hommes qui ont développé une grande et belle sensibilité, mais qui en même temps ont jeté le bébé avec l'eau du bain, et qui du coup ont du mal à apprécier le yang et la puissance qui sont assimilés à la brutalité, à la violence, la prédation. Et donc, du coup, ils ne sont pas en paix avec cette polarité-là. Et enfin, quelle que soit la polarité avec laquelle on n'est pas en paix, ça crée de toute façon une bagarre intérieure, de beaucoup de pertes d'énergie et un déséquilibre structurel contre lequel il faut lutter en permanence.
Le chemin, c'est vraiment un équilibre, hein, un équilibre intérieur, quoi. C'est finalement le masculin, ce que j'appellerais le masculin sacré, c'est vraiment l'équilibre à l'intérieur de soi, d'être autant yin que yang, et finalement, c'est pas si évident que ça, quoi.
Non. Et ce qui n'est pas évident, c'est que l'idée n'est pas de trouver forcément un 50-50, parce qu'à la limite, ce serait encore du coup facile, entre guillemets, parce que ce serait clair, mais c'est de trouver là où le curseur se place de la façon la plus juste pour moi, et ce n'est pas forcément la même chose pour toi. Donc, je peux être à 55-45% de yin ou de yang, ou l'inverse, ou 60, ou peu importe. Mais donc, c'est à chacun de trouver, et ça peut bouger avec les années, avec l'évolution de la personne. Et donc, c'est vraiment une recherche très personnelle, très individuelle, de dire, voilà, moi qui je suis, le curseur, pour que je me sente vraiment moi-même, comme je me sente vraiment en harmonie complète, le curseur doit se placer de telle façon. Et ça, c'est vraiment une recherche que personne ne peut faire à notre place.
Oui, et puis en plus, comme tu dis, vu qu'on est tous uniques, peut-être qu'il y a quelqu'un en équilibre qui va être 90% yin et 10% yang, et en plus pas dans les mêmes domaines au même moment.
Tout à
Ça veut
fait.
dire que c'est ça aussi qui est intéressant, quoi.
Maintenant, 90-10, ça me semble difficile d'avoir ré réellement un équilibre. Et puis, c'est vrai qu'après, il faut distinguer que chaque polarité a différentes facettes. Donc, par exemple, le yang, on parle des quatre archétypes. Donc, le roi, le guerrier, le magicien et l'amant. Donc, on peut être très yang dans la facette guerrier, et absolument nulle part dans la facette magicien, par exemple, ou l'inverse. Donc, il faut encore distinguer de quelle facette on parle. Et j'en profite aussi pour préciser, parce que c'est un de mes chevaux de bataille, que ces archétypes, le roi, le guerrier, etc., ce ne sont pas des archétypes du masculin, mais bien des archétypes du yang. Ce qui fait qu'ils peuvent... Peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Là, je vois que tu te dis un petit peu. Mais pour moi, il y a aussi bien l'archétype de la reine, l'archétype de la guerrière. Et donc, ce sont des polarités qui sont non-genrées pour moi. Donc, c'est donc le yang, il peut aussi bien être chez l'homme que chez la femme. Et donc, ces quatre archétypes, pour moi, ne symbolisent pas le masculin. Ici, évidemment, on dit le roi, donc ça fait masculin, évidemment. Mais on peut tout aussi bien parler de la reine, du guerrier, de la guerrière, de l'amante, de la magicienne. Donc pour moi, ce n'est pas une division genrée, parce que ça voudrait dire que l'autorité, ben, la femme n'y a pas accès, ou ce n'est pas naturel, alors que dans les faits, on voit bien que la reine d'Angleterre, personne ne va aller dire qu'elle n'incarnait pas la royauté, l'autorité. Et Serena Williams, si ce n'est pas une guerrière sur un terrain de tennis. Donc pour moi, ce sont des femmes qui sont yang et pas des garçons manqués pour autant.
En fait, c'est juste parce qu'on n'utilise pas les mêmes termes. On est d'accord, j'imagine, mais on n'utilise pas les mêmes termes. Pour moi, c'est des archétypes du masculin, les quatre, mais parce que le masculin, c'est une tonalité énergétique qu'on porte à l'intérieur de nous. Alors, toi, tu dis yin et yang, et moi, je dis masculin, féminin quand je parle de ces énergies. Mais parce que justement, j'ai déjà travaillé qu'avec des femmes, avec ces tonalités archétypales du masculin. Et en fait, il y a des choses qui se passent très très bien aussi, parce que même en tant que femme, elles ont du yang et du masculin à l'intérieur d'elles, comme nous, on a du féminin. Et c'était assez intéressant d'aller voir comment elles s'étaient construites dans leur masculin, dans leur yang, avec ces archétypes. Donc c'est juste une histoire de termes,
Oui,
mais
c'est clair. Mais
on
c'est
est
pour
tout
ça
à fait
que.
d'accord
Oui, je
que
crois.
ça
Mais
représente l'énergie yang à l'intérieur de soi et que ça ne définit pas, entre guillemets, l'homme, quoi.
Mais c'est pour ça qu'effectivement, je préfère utiliser yang, yin et yang que les termes polarité masculine et féminine, parce que ça vient induire que du coup le yang serait plus réservé aux hommes, et donc du coup les femmes ne se l'autoriseraient pas. Et donc c'est vrai que c'est une question de termes, mais les termes sont importants parce qu'ils induisent une idée où ils peuvent prêter à confusion. Et donc des termes moins connotés pour nous occidentaux de yin et yang, je dirais, ouvre plus les possibilités que masculin, féminin. Mais voilà, après ça, c'est vrai que c'est une question purement de termes, je suis d'accord.
Après, dans ton livre, tu abordes aussi une des plus grosses difficultés finalement du masculin qui est enfin de l'homme, qui est la peur du féminin à l'intérieur de lui. Parce que tu l'abordes avec plein d'aspects, avec justement toutes les différentes parts qui peuvent faire peur à l'homme dans ce féminin. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ou...
Oui. Donc, l'idée de l'article, d'abord, c'est un article, celui-là. Donc, j'avais participé à un cercle d'hommes il y a déjà quelques années, et à un moment, on évoque dans le cercle de parole des peurs inconscientes des hommes à l'égard du féminin, et j'avais été étonné, on était un petit groupe, genre 10 personnes, mais sur les 10, il y en avait deux ou trois pour qui la peur d'être englouti dans la sexualité par le féminin était des peurs réelles. Et je me suis dit, waouh, ce qui me semblait quelque chose d'assez archaïque et un peu théorique, en fait, c'est une peur qui est vraiment réelle, même si elle n'est pas à prendre au premier degré, bien entendu. On ne va pas être englouti par le sexe féminin avec des dents, etc. Mais malgré tout, la peur que la femme soit une espèce d'ogresse insatiable que l'homme n'arrivera pas à contenter parce que à un moment, il va être à bout d'énergie, puis à plus arriver à avoir d'érection. Bon, ce sont quand même des grandes peurs de la plupart des hommes, c'est de ne pas être à la hauteur, entre guillemets, de ne pas arriver à prester, ou sur un plan plus affectif que sexuel. L'idée que la femme vient enfermer l'homme, c'est la mère envahissante, donc d'être castré sur le plan psychologique, d'être avec un fil à la patte, comme on dit. Donc une fois qu'on est marié, c'est vraiment cette idée qu'on perd sa liberté, qu'on est soumis, qu'on perd son libre arbitre. Et donc, ce sont des peurs qui sont évidemment liées souvent au souvenir de la mère, enfin de l'archétype de la mère, et qui, l'air de rien, dans la psyché inconsciente des hommes, a un poids et qui fait que beaucoup d'hommes ont, par exemple, du mal à s'engager dans une relation amoureuse, parce qu'il y a vraiment cette idée, une fois que je serai engagé, je perds ma liberté. Et ce qui est avant tout, je crois, une peur vraiment. Ça peut être une peur personnelle, mais il y a quelque chose vraiment d'inconscient collectif là-dedans. Ça dépasse l'individu.
Et puis, bien. Moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a surtout aussi, finalement, quand on je veux dire plus jeune, si on se met en couple, il y a la projection de procréer, et que finalement, si on n'a pas réglé ça à l'intérieur de nous, on transforme notre femme en mère. Donc, si on n'a pas réglé tout ce qu'on avait à faire avec la mère, d'un coup, notre épouse ou notre compagne devient l'incarnation de la mère. Et selon ce qu'on a à régler, ben, ça peut... c'est peut-être pas évident des fois.
C'est vrai que sur le plan psychanalytique, il y a énormément de choses qui sont dites à ce sujet-là. Et c'est sûr que si notre épouse ou partenaire, on projette dessus qu'elle a quelque chose de la mère, donc il y a forcément sur le plan de la sexualité, c'est difficile d'aller érotiser ou alors dans un truc un peu malsain la relation à la mère. Par ailleurs, ça pousse l'homme à ne pas s'affirmer en tant qu'homme dans l'archétype du roi, et donc du coup il reste dans une position plus immature de petit garçon qui donc ça il y a beaucoup de femmes qui se plaignent, voilà, j'ai trois enfants plus un quatrième qui est mon mari, d'hommes qui se laissent porter, qui quelque part régressent, s'infantilisent et sont quelque part très contents de rester sous l'influence de leur femme, parce que ça leur permet de ne pas devoir grandir. Et donc, c'est pas sain du point de vue du couple, mais également d'un point de vue individuel. C'est dommage parce que du coup, l'homme ne va pas s'individualiser, ne va pas se développer et passer de la phase immature à la phase mature de sa construction d'homme. En tout cas, sur certains aspects.
Moi, ce qui me vient quand tu me dis ça, enfin, ça me rappelle des années de jeune adulte, c'est qu'il y avait justement déjà cette prise de conscience que le masculin dominant patriarcal d'avant n'était pas très sain et équilibré. Et pour ma part, hein, il y avait eu, quand je dis jeune adulte, une difficulté à prendre cette place d'homme parce qu'il y avait la volonté de ne pas ressembler au modèle d'avant. Et toi, quand tu parlais de l'homme qui est en couple, mais qui n'arrive pas à prendre sa place, qui n'arrive pas à être. Et moi, je me retrouve bien quand j'étais adulte comme ça, de ne pas oser être dans mon rayonnement du masculin parce que dans la peur de re-écraser, tu vois, le féminin. Est-ce que ça, tu le vois aussi dans les hommes que tu accompagnes
Oui, parce que j'accompagne aussi des couples. Et donc, dans la dynamique de couple, on peut voir ça aussi. Des femmes qui se plaignent de ce que leur partenaire n'est pas assez homme, qu'il n'incarne pas le pilier solide qu'elles souhaiteraient, ou qu'elles, du coup, doivent surcompenser et prendre tout le côté yang parce qu'elles ne le trouvent pas chez leur compagnon. Avec la frustration du coup qu'elles n'ont pas la possibilité de laisser le yin s'exprimer en elles parce que le yang doit tout assumer au quotidien. Et donc à la fois, c'est des femmes qui souvent ont choisi ce type d'homme très doux, très policé, parce que c'est un modèle qui ne fait pas peur. Et donc ce sont des femmes qui parfois ont eu un historique compliqué avec les hommes et qui du coup se mettent en couple avec des hommes qui ne sont pas menaçants, mais à un moment, ben, ce sont des hommes aussi qui ne tiennent pas leur statut d'homme, et en tout cas pas dans ce qu'elles attendent, et du coup, elles se plaignent de ce qu'en face, elles ont un petit garçon, en tout cas quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'elles souhaitent, ce dont elles ont besoin pour pouvoir laisser justement leur yin s'épanouir avec un yang fort en face.
Mais tu vois, je trouve que c'est aussi un petit peu pour les hommes un peu schizophrène parce que ça veut dire que je l'entends parce que je l'ai vécu d'être avec des femmes qui ont subi des violences, donc elles choisissent des hommes qui sont plutôt cool et détendus et puis qui sont pas très dominants. Mais en même temps, derrière, il y a aussi le truc de oui, mais je sais bien quand tu sois doux, ça me rassure, mais en même temps, sois un vrai mec, quoi. Et là, j'ai l'impression que, enfin, moi, mon cerveau à l'époque, il a bugué, comme beaucoup d'hommes, c'est de se dire oui, mais alors comment je fais pour pouvoir être doux et sensible et dans le même temps prendre ma place, être un homme entre guillemets qui a des couilles, qui prend ses responsabilités, tu vois, ça fait un petit peu un bug, j'ai l'impression, c'est de se dire oui, mais comment faire, comment se positionner, quoi.
En fait, ça semble inconciliable. On a l'impression qu'on nous demande tout et son contraire en même temps. Mais en pratique, je pense qu'il y a une conciliation qui est possible, qui est que donc on est plus dans l'archétype du guerrier et sa phase immature, le héros. Donc le héros, c'est a priori le stade adolescent où le jeune homme, pour se construire dans sa masculinité, a besoin de rejeter tout ce qui est féminin, de rejeter la mère, et donc d'arborer de manière un peu plus exacerbée les codes de la virilité pour se sentir appartenir au monde des hommes. Donc c'est une phase qui est censée être transitoire et de ne pas perdurer. Mais beaucoup d'hommes, finalement, restent coincés dans cette phase immature du héros. Donc c'est celui qui est en rivalité avec les autres hommes, en compétition, qui doit prouver. Et la plupart des excès du patriarcat, donc c'est pas tant trop de masculin ou trop de yang, que en fait ce yang dans cette phase qui est restée immature, qui a besoin de prouver, d'en rajouter, et donc il voit le féminin comme comme finalement le repoussoir total de ce que lui souhaite être. Et donc, il y a beaucoup de rejet, de mépris et à la fois de peur en même temps du féminin et surtout la grande peur de surtout que je ne sois pas associé à ce féminin. Donc, l'idée que je puisse être vu comme efféminé et autre est vraiment la grosse hantise. Et donc, les femmes, ce qu'elles ne veulent pas, c'est ce côté du héros qui est dans l'excès. Même si c'est le modèle que nous vend les médias, le cinéma, etc. Et donc, du coup, il y a cette contradiction qu'elles aussi ont le cerveau un peu lavé par toute la culture, qui fait que d'un côté, elles croient que c'est ça le vrai homme. Et donc, d'une certaine façon, elles peuvent l'appeler aussi, alors que d'un autre côté, ce n'est pas ça qui leur convient. Donc, c'est vrai que c'est contradictoire. Mais donc, d'un côté, ce qu'elles souhaitent, c'est donc pas le héros, mais le guerrier, c'est-à-dire l'homme s'est reconnecté à sa puissance, qui est solide, mais en même temps qui a fait la paix avec le féminin et qui s'est reconnecté avec sa part plus sensible. Et donc là, il n'y a pas de contradiction. À la fois, l'homme peut être dans sa puissance, peut être fort, mais une force qui est douce, qui est tranquille, qui est assumée, qui est au service, qui vient protéger. Et donc le fait d'être un homme gentil, avec de la gentillesse, de la bienveillance, n'enlève rien aux qualités yang de puissance. Et donc la gentillesse, je crois, reste une qualité vraiment appréciée par les femmes, mais ce n'est pas de la gentillesse qui équivaut à de la mollesse ou à de la faiblesse. Donc c'est de la gentillesse, mais qui en même temps est dans la puissance. Et les deux ensemble, ça fait, je crois, le cocktail qui fait la différence, à mon avis. Donc on est à la fois vrai homme, mais on est à la fois doux, sensible, à l'écoute. Et donc c'est vraiment ce mariage des deux polarités, des deux opposés antagonistes, mais qui en fait ne sont pas contradictoires et inconciliables, et qui au contraire sont faits pour se marier et fusionner.
J'entends quand tu dis la gentillesse et la puissance, mais c'est comme si c'est d'avoir conscience de sa puissance de mise en œuvre, même physique, de décision, de choses comme ça. C'est aussi parce que j'ai conscience de ma puissance que je peux avoir l'humilité de ne pas l'utiliser et d'être justement au service et d'être avenant ou prévenant. Ça veut dire, oui, je pourrais bousculer les gens, mais j'ai la force de faire ça, d'accord. Mais parce que j'ai conscience que j'ai la force de faire ça, je peux prendre soin de la personne à côté de moi. Justement, pour moi, il y a cette notion de vraiment dans le masculin immature de la conscience de la puissance que j'ai et de au lieu de vouloir écraser comme un éléphant tout ça, de se dire, ok, je vais prendre soin justement des autres parce que j'ai de la puissance, quoi.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu le slogan, la force tranquille. C'est la personne qui n'a pas besoin d'exprimer sa puissance. Il n'a pas besoin de montrer ses muscles ou de faire quoi que ce soit, parce que il est à ce point conscient de cette puissance qu'il n'a pas besoin de la prouver et qu'il est en paix avec elle. Il n'a pas besoin de la faire valider, de la redémontrer, d'obtenir des satisfactions de l'extérieur. Il sait qu'elle est là et c'est bon. Et en même temps, il y a aussi, en tant qu'homme, de pouvoir ne pas forcément répondre aux attentes du féminin qui ne nous semblerait pas juste. Si effectivement une femme aime les bad boys et souhaite, parce qu'elle est dans les clichés, etc., ben c'est aussi de pas forcément rentrer là-dedans. De même que si la femme nous pousse sur le plan de la sexualité, dans la performance et ce genre de trucs, c'est de pouvoir dire, désolé, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là. Le truc de la compétition, d'en faire toujours plus, de devoir prouver, d'être mise en compétition avec d'autres hommes. Moi, ce truc-là, ça ne m'excite pas. Et donc, de pouvoir
C'est
gentiment dire, je ne rentre pas là-dedans.
comme la jalousie aussi, comme d'autres choses,
Tout
quoi.
à fait.
Ouais.
Parce que sinon, si je suis fragile dans ma masculinité et que la femme vient un peu me chercher, me titiller là-dedans, ben je pourrais avoir tendance à dire, OK, je saute à pieds joints dans les défis qu'elle me lance, et donc je dois prouver ceci, cela. Et non, c'est de pouvoir dire, je suis suffisamment bien dans mon masculin pour ne pas avoir besoin de répondre d'être hyper réactif dès qu'on vient poser la question de est-ce que je suis un vrai homme ou pas?
Même moi, tu vois, ça me fait penser à, même sans venir titiller sur le fait d'être un homme, dans la relation, tu vois, c'est aussi de pouvoir garder le cap et la droiture quand l'autre te pousse à bout, tu vois, dans le couple, dans la relation, dans une engueulade ou dans un truc où on n'est pas d'accord, ou quand l'autre va titiller, venir chercher, pousser à bout, pousser à bout, pousser à bout, et de garder le cap pour dire OK, parce que physiquement, oui, si j'en colle une, ça se calme, mais en fait, comment je viens maîtriser, tu vois, la colère qui est là, la pulsion qui va venir, ou simplement le fait d'arrêter, quoi, de se dire, oh, stop, quoi, là, il y en a marre, quoi, tu vois, de garder cet axe à l'intérieur de soi, quoi.
Oui, mais donc
Ça, je trouve ça.
de nouveau, on revient dans l'archétype du guerrier qui n'utilise pas sa force n'importe comment, qui sait la mettre au service, et je pense aussi l'archétype du roi qui, du coup, sait être dans son autorité et peut dire stop quand c'est pas OK, et qui est garant finalement de l'harmonie et de la fiabilité du cadre, d'une certaine façon.
Ouais. Ouais, y a tous les faces, finalement, ça, on en revient à toutes les phases immatures du masculin, quoi.
C'est clair que quand on est dans la phase immature du roi ou dans la phase sombre du roi, à ce moment-là, on est dans la tyrannie, on est dans l'usage de la
Faiblesse.
force gratuite et où on abuse de son autorité ou de sa puissance, ou de même que le guerrier est pareil pour le guerrier, où là on est dans l'abus de la force. Là, effectivement, il faut distinguer. Pour chaque archétype, il y a le côté mature et immature, et puis il y a la phase sombre, soit en excès, soit en défaut. Et donc le tout est de trouver le juste équilibre, et donc dans les quatre facettes du yang, et de même dans les quatre facettes du yin, tout autant. Donc ça devient subtil.
Dans ton livre aussi, je vois que tu abordes aussi un autre point dans le rôle essentiel du père, parce que justement, dans le masculin immature, s'il est aussi immature, c'est qu'il y a eu un vide. Il y a eu un vide de transmission, un vide d'initiation, un vide de rite de passage.
Mais donc, je crois très fort dans la vertu de l'exemple et du modèle. Et donc, par le passé, les pères étaient assez peu présents dans l'éducation de leur enfant, surtout dans les premières années, considérant que ce n'était pas leur job, eux, ils bossaient à l'extérieur, et c'était vraiment du domaine purement maternel et féminin de s'occuper des petits-enfants. Et donc, forcément, le garçon qui a vécu toute son enfance dans un milieu très féminin, maternel, doit d'autant plus faire une coupure importante pour pouvoir se séparer du féminin et se construire en tant que masculin. Par contre, le petit garçon qui a toujours vécu avec des figures masculines autour de lui, il y a son père, il y a eu des oncles, des grands-parents, des frères, etc. Du coup, a moins besoin de s'opposer au féminin pour se construire dans le masculin. Et de même, en tant que petit garçon, si je vois un modèle de père qui est équilibré dans ses polarités, qui n'est pas un modèle absent, qui n'est pas un modèle qui est uniquement patriarcal, enfin, le patriarche qui n'est là que pour punir, hausser la voix et qui n'a pas de geste de tendresse ou de douceur envers ses enfants ou sa femme, ben c'est clair que je vais me construire en partie soit en totale opposition, soit en mimétisme par rapport à ça. Et je n'aurai pas d'autres modèles auxquels m'identifier. Donc je crois que l'implication des pères à une échelle vraiment importante, en Occident en tout cas, parce que je ne connais pas très bien comment ça se passe partout dans le reste du monde, j'ai le sentiment que c'est vraiment relativement récent à l'échelle je dirais, de l'histoire, de l'humanité. Et donc il y a... Je n'ai pas lu énormément de choses dessus, mais j'ai le sentiment que ça peut être un moment charnière, un basculement vraiment important dans l'histoire de l'humanité, parce que on va vraiment basculer de la civilisation patriarcale du héros, donc de l'archétype violent et guerrier, vers quelque chose de beaucoup plus doux et équilibré. et dont autant les femmes et les hommes nous pourrons vraiment y gagner. Donc je sais, enfin je mesure pas combien, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui peut avoir un impact vraiment majeur et significatif sur la relation que nous, les hommes, nous avons à notre masculin, que les femmes ont à leur féminin, et également les relations entre hommes et femmes, tout simplement. Du coup, je suis prudemment très optimiste par rapport à ça.
Moi aussi, je vois bien qu'on est dans un moment charnière qui fait que là, depuis quelques années, le masculin se réveille et quand il va mettre en place des nouvelles lignées de transmission, où justement on va enfin pouvoir enseigner de manière consciente qu'est-ce que c'est que du masculin mature, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler en cascade parce que c'est vrai que ce masculin immature, comme tu dis, le héros qui est resté bloqué justement parce qu'il n'y a plus d'initiation, donc en fait c'est normal que les hommes restent immatures, vu qu'on leur a enlevé les rites de passage qui existaient avant. Peut-être que c'est parce qu'il faut qu'on en refasse de nouveau aujourd'hui, qu'on en crée de nouveau, même à l'échelle plus globale, pour que justement on arrive à un masculin mature. Mais j'ai l'impression que, ouais, y a vraiment une charnière là. On va arriver dans un autre monde avec des nouveaux repères, quoi.
Et en même temps, le fait que les petits garçons soient en présence de figures masculines de façon beaucoup plus régulière qu'avant me fait penser que le besoin de rites de passage est peut-être du coup moins criant, ou en tout cas des rites différents de par le passé. Parce
Oui.
qu'avant, quand le petit garçon voyait pas une figure masculine pendant ses 10 premières années, mais forcément, il fallait des rites longs, importants, parce qu'il y avait toute une évolution, une charnière importante qui devait être faite. Aujourd'hui, ben, ce sera différent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de rites, mais ils seront forcément différents de ceux du passé, parce que la situation n'est plus la même. J'ai l'impression.
C'est surtout que pour moi, les rites de passage avant, ils faisaient vraiment passer du héros au guerrier, mais que au guerrier, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que dans les sociétés premières, quand tu vois les rites de passage, c'est quand même des trucs durs, violents, pour accueillir sa vulnérabilité, mais c'était plutôt une vulnérabilité physique et émotionnelle, mais il n'y avait pas la conscience de la globalité du fonctionnement. J'ai l'impression que là, c'est ça, où ce que tu es en train de dire, où on va arriver peut-être sur des initiations, entre guillemets, plus douces. Ça sera moins des initiations guerrières comme avant, mais ça sera quand même des initiations, pour moi, de conscience, en fait. C'est ça qui arrive.
Ouais. Et donc, qui peut-être ne se feront pas sur un temps bien précis défini, mais s'étaleront sur éventuellement plusieurs années de façon plus diffuse dans la relation que le père aura à son enfant à qui il apprendra à bricoler ou des choses comme ça. Donc, pendant cette facette de l'archétype du magicien, le terme est très mal choisi parce que ce n'est pas de la magie. Mais c'est plutôt le fait de
La technicité, quoi.
la technicité, la technologie, l'utilisation plus rationnel du cerveau et donc du mental. Ça pourra se faire au quotidien par des apprentissages entre père et fils. Et même pas que, parce que là, également, si les femmes ont plus accès et développent plus leur polarité yang, ben c'est peut-être la maman qui apprendra au gamin à remplacer un pneu de vélo ou à utiliser un ordinateur. Et donc, ce sera un apprentissage du yang, mais qui du coup ne se fait pas forcément par un sexe ou par un autre. Donc, après ça, l'apprentissage de la masculinité, du coup, se fera de manière un peu différente aussi, j'imagine. Quelle forme ça va prendre, c'est pas encore très clair. Je ne sais pas.
Ça ramène aussi au sujet du yin chez l'homme, quoi, finalement, parce que c'est quand tu dis oui, bah, peut-être que ce côté yang, c'est peut-être leur mère qui vont leur apprendre, et peut-être que le père va lui apprendre à s'asseoir dans la nature, à accueillir l'invisible, à écouter l'autre, à accueillir ses sentiments. Et justement, c'est peut-être dans cet équilibre-là qu'il y a quelque chose de nouveau
Ouais.
qui va naître.
Et c'est clair que si les deux parents sont polyvalents là-dedans, et du coup l'idée n'est pas d'inverser les polarités et que la femme représente que le yang et l'homme le yin, mais que les deux parents sont sont capables, avec fluidité, d'incarner les deux polarités, les deux rôles, ben c'est aussi un beau message à donner aux enfants, qui est que eux-mêmes peuvent déployer les deux polarités en eux et de ne pas devoir se cantonner à une des deux spécificités. Et donc c'est pour ça aussi que dans le livre, j'avais envie de j'écris un chapitre de des archétypes yin du masculin. Je me suis rendu compte que autant les femmes avaient du mal à avoir des modèles archétypales pour le yang, autant les hommes avaient finalement pas tellement de modèles de yin auxquels ils pouvaient s'identifier. Donc on voit beaucoup, il y a la magicienne, la déesse, l'amante. Enfin, il y a plein de personnages archétypaux féminins qui renvoient directement aux femmes pour le yin, mais pour les hommes, il n'y en avait pas tellement. Donc je me suis amusé à faire l'exercice de trouver des archétypes yin, mais qui soient des hommes, qui renvoient au masculin, mais qui soient yin. Et donc du coup, j'en ai inventé, je ne sais plus, 3-4. Un peu en miroir l'équivalent de ce qu'on trouve du côté yang. Et donc, je trouve ça intéressant que les hommes aient des modèles, puissent s'identifier et dire, OK, c'est très yin, mais c'est tout autant, c'est pas moins masculin. Et donc, en tant qu'homme, j'ai pas le sentiment de me féminiser si je développe cette facette-là en moi. Et donc, ça peut être les qualités yin d'intuition, d'écoute, de douceur, pour lesquels, ben en fait, un homme peut tout aussi bien s'y retrouver.
Mais c'est aussi déjà des. En fait, tout ce que tu décris, c'est déjà les qualités de l'amant. Parce que l'amant, souvent,
Parti, oui.
c'est aussi pour moi des fois l'écueil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du tantra, de voir l'amant dans le côté sensuel, sexuel, mais l'amant, c'est aussi la notion du beau, le lien à l'invisible, l'intuition, le fait d'être canal. Le poète, finalement, l'amant, il regroupe toutes ces qualités yin
Oui,
de.
en fait, l'amant, c'est un archétype un peu hybride, qui est en partie yang, mais en partie yin aussi. Et il a un peu les deux, parce que c'est clair que le bon amant est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est dans la connexion, donc ce qui sont a priori des facettes yin. Il n'est pas que dans. Il serait que dans la puissance sexuelle. Qu'à ce moment-là, on serait dans quelque chose de pas équilibré.
Est-ce que tu arrives à voir l'alternance, l'hemniscate qui va entre le guerrier et l'amant? Parce que pour moi, quand tu dis l'amant, il est aussi yang, pour moi, c'est plutôt le guerrier qui est yang. L'amant, il est yin et yin. Le guerrier est yang-yang. Le magicien est yin-yang. Et le roi est yang-yin.
OK.
Et
Ouais, ça peut effectivement.
pour moi, il y a le passage de l'un à l'autre, que dans l'acte, on peut être actif ou passif. Tu vois, on peut recevoir comme l'amant, et on peut aussi être très dans la performance comme le guerrier, finalement. Et que finalement, c'est juste le basculement de l'un à l'autre.
Mais c'est vrai que comme le guerrier dans sa phase mature, il a du yang, mais il a accueilli son yin. Moi, je ne sais plus quelle était la phase immature de l'amant, je ne me rappelle plus bien, mais là
Le
aussi,
dépendant ou
il y avait.
l'impotent ou le dépendant, en fait.
Je ne sais plus quel était le nom utilisé, peut-être. Mais donc là aussi, d'arriver à la phase mature, c'est l'intégration et l'accueil de l'autre polarité qui vient nuancer et équilibrer.
Ouais, c'est intéressant. C'est chouette. Belle recherche, en tout cas, hein,
Mais oui.
sur ces dynamiques archétypales. C'était
Mais
chouette.
oui, et en fait, je la connaissais pas bien avant de commencer le livre, et donc c'est en recherchant un peu. En suivant mon flair dans mes recherches au hasard, que je suis tombé sur ce fameux livre de Moore et de réaliser que en fait ce livre n'était pas traduit en français et
Oui.
donc du coup était relativement Enfin, à la fois, c'était assez méconnu côté francophone, mais il y avait quand même pas mal d'idées qui avaient déjà percolé, mais qui étaient en partie transformées, en partie mal comprises et, ou retirées de leur contexte. Et donc, c'est que dans les sages de tantra, on peut utiliser déjà l'un ou l'autre de ces archétypes, mais sans les voir dans leur vision d'ensemble. Et ce qui, pour moi, a été une révélation, c'est pas tellement l'archétype que le côté mature et immature.
Ça, c'est, je reviens parce que c'est assez intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup maintenant d'hommes qui comprennent un peu ces dynamiques archétypales, qui ont des notions, des bases. Mais c'est vrai que des gens qui vont vraiment l'étudier dans les notions de vide et de plein, d'excès, de vide en dynamique, vu que c'est vrai que c'est des notions qui sont toujours en anglais, qui ne sont pas assez traduites, il y a peu de gens qui se plongent vraiment dans ces dynamiques de déséquilibre, en fait. Et c'est chouette de pouvoir voir ça, quoi.
Enfin, moi, c'était une révélation quand j'ai vu ça. Je me dis, waouh, quelle grille de lecture intéressante! Et il y a plein de phénomènes sociaux, de comportements humains qui peuvent vraiment être lus à travers cette grille. De dire, ok, là, on est dans tel aspect mature ou immature, on est dans l'aspect en vide ou en plein, dans la face sombre de tel archétype. Et donc, OK, du coup, comment est-ce qu'on peut l'appréhender? Comment est-ce qu'on peut le travailler? Où est-ce qu'il y a quelque chose à faire évoluer?
Moi, je trouve ça génial parce qu'il y a quelques années, je faisais des conférences là-dessus parce que moi, c'est mon travail dynamique en stage. Je travaille beaucoup avec les archétypes masculins, enfin, les quatre archétypes principaux et d'autres secondaires que j'ai trouvés aussi. Et en fait, quand je faisais des conférences, c'était les femmes qui étaient le plus en demande de ces dynamiques pour se dire, mais moi, en fait, j'ai besoin de comprendre comment vous fonctionnez avec tous vos déséquilibres. Et c'était intéressant de voir que finalement, c'était même pas les hommes eux-mêmes qui venaient voir comment ils fonctionnaient, mais c'était plutôt leur compagne ou les femmes qui étaient très intéressées de se dire, mais nous aussi, on veut comprendre comment le masculin il fonctionne, quoi.
Ouais,
Et
mais
ça, je trouve ça chouette aussi.
je crois que j'ai plus de lectrices que de lecteurs avec mon livre, cela dit. Et en même temps, parce qu'elles veulent comprendre leur compagnon, mais également, c'est une grille de lecture qui s'applique autant aux hommes qu'aux femmes. Et donc, ça parle du fonctionnement intérieur, finalement, et de l'équilibre intérieur chez absolument tout le monde. Parce que beaucoup de femmes ont aussi des difficultés à équilibrer leur polarité, n'assument pas leur yang. Ou au contraire, ont trop rejeté leur yin parce que, ayant le sentiment que ça les affaiblissait ou que ça les desservait. Donc, il y a là aussi, enfin, il y a autant à dire au niveau homme que femme par rapport à ça. Et ça change un peu de ce qu'on lit d'habitude sur le féminin sacré, qui parfois est un peu redondant, quoi.
Merci Didier de tous ces partages et de ces mots. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, une notion que tu aurais envie, qui te tient à cœur en ce moment, quelque chose qui n'est pas vraiment dans le livre, mais qui est présente pour toi actuellement ou...
Oui, aussi par rapport aux archétypes, ce que j'ai envie de dire, c'est que les archétypes, on peut parfois, je vois ça en développement personnel, en tantra ou autre, on les voit parfois comme des choses totalement immuables et donc des sortes de vérités scientifiques éternelles, que voilà, les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela. Et je crois que c'est vraiment important de prendre conscience que les archétypes sont relatifs et donc correspondent à une société précise géographiquement, à une période donnée, donc qui peut s'étaler sur plusieurs milliers d'années le cas échéant, mais que donc ce n'est pas un truc universel. Et donc dans d'autres parties du monde, à d'autres périodes, ils auront un autre, leur inconscient collectif sera différent, et donc les archétypes qui vont être générés par cet inconscient collectif ne seront pas forcément les mêmes. Et donc, avoir les archétypes comme quelque chose de totalement immuable, on vient finalement cristalliser des vérités qui du coup deviennent des clichés, deviennent des poncifs et peuvent entretenir finalement des stéréotypes qui s'avèrent plus forcément, soit pas ou plus forcément justes parce qu'ils ne correspondent plus à une évolution du monde. Donc c'est à manier avec toujours un peu de discernement sur les archétypes. C'est un magnifique outil, mais de ne pas en faire un instrument de véhicule de clichés Donc de pouvoir être lucide par rapport à ça aussi.
Ce qui est intéressant, c'est que, enfin, moi, c'est comme ça que je l'aborde aussi, que je l'enseigne, c'est que c'est des dynamiques énergétiques intérieures. Que c'est pas justement quelque chose de figé, que le guerrier, oui, on peut en parler, on peut parler des excès. En fait, on peut parler d'une dynamique intérieure quand on parle des excès, du vide et du plein qui se rejoignent et qui se nourrissent l'une l'autre. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire le guerrier, c'est ça. C'est plus comment je le vis et comment ça se manifeste ou ça bouge à l'intérieur de moi.
Bien,
Et
c'est
c'est
clair.
vraiment comme si on disait, comme en médecine chinoise, on parle du feu, du bois, on voit que c'est des dynamiques, c'est pas le feu, c'est ça, ou le bois, c'est ça, c'est comment ça se bouge à l'intérieur de moi, quoi.
Ouais, et
C'est ça qui est intéressant.
ma perception aujourd'hui du guerrier n'est évidemment pas la même que celle d'un combattant sumérien en moins 2000 avant Jésus-Christ, quoi.
Oui.
Forcément, on met pas la même chose dans la notion de guerrier.
Merci Didier pour ce temps passé
Je
avec
t'en
moi.
prie, avec plaisir. Et, ah oui, un truc que j'aimerais peut-être te dire, c'est que donc, là, tant dans mon masculin que dans sa vision, ben, je reste un homme en chemin. En ce sens que c'est évolutif. Et donc, je me rends compte que en reprenant mes vieux articles, j'avais beaucoup évolué depuis 10 ans. Lors de l'élaboration et l'écriture du livre, j'avais encore beaucoup évolué. Et puis, depuis qu'il est paru et que j'ai des retours, ça continue encore à me faire réfléchir, à me faire bosser. Et donc, c'est quelque chose qui n'est jamais fini, qui n'est jamais figé. Et donc, c'est intéressant d'avoir, je trouve, cette humilité de se dire, OK, je continue à affiner, à polir ma vision, ma perception des choses. Et il se peut que ce que je croyais acquis maintenant, dans 2, 3 ans, ben, va se retrouver transformé et finalement de voir ça comme quelque chose de très positif.
Merci d'avoir ces mots parce que pour moi, c'est un gage de fiabilité,
Oui,
de
tout à fait.
savoir qu'on ne sait pas et que finalement, on est toujours en chemin. Et ça, c'est chouette.
Oui, d'avoir vraiment l'humilité de dire, OK, on bosse, mais c'est pas, il n'y a rien qui est acquis.
Et que demain, peut-être que ce que je vais découvrir, ça va totalement chambouler ce que je pouvais affirmer aujourd'hui et que finalement, c'est totalement normal et c'est totalement juste, quoi, de se dire. De voir son point de vue aujourd'hui, de pouvoir le défendre, d'être dans sa vérité aujourd'hui et de se dire que bah, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas la même que demain.
Je le vois pas comme un truc insécurisant de me dire voilà j'ai pas de fondation il y a rien sur lequel je puisse m'appuyer. Non, je peux m'appuyer sur des choses mais qui continuent à évoluer et c'est comment en tant qu'homme ben, j'essaye d'épouser ces évolutions et d'évoluer en même temps de grandir avec. Eh ben je te remercie beaucoup.
Mais moi aussi, je te remercie, Didier, d'avoir pris ce temps avec moi. Merci finalement aussi à toutes les personnes qui suivent toutes ces séries d'interviews, qui nous regardent. Donc n'hésitez pas, si vous aimez, parlez-en, likez. Voilà. Montrez les vidéos à vos amis, écoutez les podcasts. Et il y en aura encore plein d'autres après. Merci Didier.
Je t'en prie, merci à toi aussi. À bientôt.
Ouais. À bientôt tout le monde. Au revoir.